L'objectif de ce que je vais évoquer ce matin, c'était de souligner qu'effectivement, dans ce qu'on peut avoir comme enseignement, à la fois dans les programmes, encore maintenant, hein, même si ça a bougé un petit peu les programmes, dans les pratiques surtout des enseignants, eh bien, qu'il fallait vraiment dépasser ce qui peut exister actuellement, à la fois dans les outils, les programmes, les pratiques, tout ce qui est là. D'où ce que j'ai mis, hein, comme finalement une finalité généraliste, hein, dépasser les carences de l'histoire des femmes enseignées. Alors j'ai fait exprès de mettre histoire des femmes, parce que souvent ça fait moins peur que de dire histoire du genre. Hein, quand on voit, j'ai simplement... Depuis la semaine dernière, j'ai un petit peu regardé ce qui pouvait sortir dans la presse sur du Figaro au Monde, à Libération ou ailleurs, le genre s'immisce à l'école, la loi du genre. Enfin bon, ça fait très peur pour des raisons stupides ou des raisons idéologiques. Mais finalement, quand on dit histoire des femmes, on fait un peu moins peur. On pourra peut-être en discuter. C'est volontairement que je pose ça de manière un peu provocatrice. En tout cas, mon idée, c'est que on avancera quand on pensera une histoire et une géographie, parce que je crois, et c'est très bien qu'il y ait des collègues géographes, et une géographie qui soit une géographie où la dimension féminine soit présente, et je vais développer pour évidemment répondre à une exigence en effet citoyenne. Alors on en parle beaucoup. Actuellement, on en parle aussi parce que justement, il y a un nouveau, et c'est très bien, un ministre des droits des femmes, hein, c'est très important, le des droits des femmes. Hein, et il y a aussi des constats faits par une mission à l'égalité en 2011 qui montrait qu'à la fois dans les entreprises, en formation et dans l'école, il y avait des problèmes récurrents qui n'étaient pas résolus. Et je vous disais, en regardant la presse, on voit que bon, simple médiatisation parfois polémique, hein, parce que dans j'ai fait l'effort d'acheter le Figaro le 29 mai 2013. Je crois que je vais être transparente si je dis ça, mais tant pis. Ah, mais je l'ai fait. Et alors les deux pages entières, évidemment dénonçant qu'on puisse derrière, alors ce qu'ils appellent une façade d'affichage d'égalité, l'idée qu'on puisse parler des filles et des garçons, voire de problèmes dont on ne devrait pas parler finalement, c'est-à-dire l'homosexualité ou l'homoparentalité, hein, alors que ça fait partie de la société et d'une actualité et qui peut être une actualité de souffrance, même chez des élèves, par exemple. Hein, donc c'est pour ça que j'ai rappelé, en mettant une publicité, là, qui est une publicité, vous voyez, pour une entreprise, Marionneau, qui se donnait le 8 mars 2010, bonne conscience, à mon avis, le jour de la Journée internationale des femmes, en faisant une publicité tout à fait douce et champêtre pour définir, mobilisons-nous contre les violences faites aux femmes. Bien. Alors, sur quel constat et élément tout ce que j'ai pu faire depuis à peu près 10 ans sur ces terrains-là, hein, s'appuie? Alors, évidemment, justement, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire se situer dans une posture de recherche-action, de lien entre une recherche théorique et puis que peut-on faire effectivement après dans des programmes, des classes ou des manuels. Vous allez voir que les manuels, ça ne s'arrange pas, hein. Ça ne s'arrange pas. Alors l'analyse des programmes, l'analyse des textes de référence, on voit que ça a bougé un petit peu. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le petit volume que j'avais fait en 2009. Ça a bougé, ça bouge encore un petit peu. Ça ne veut pas dire pour autant, puisque les programmes sont des textes, évidemment, en amont de ce que font les professeurs à tout niveau, hein, de l'école à l'université, ça ne veut pas dire pour autant que ça change dans les pratiques. C'est ça le problème. Hein. Et alors, comme vous l'avez rappelé, les manuels, les observations qu'on peut faire dans les classes, les fiches de visite, j'ai gardé ces observations et ces fiches de visite, donc... Hein, et évidemment en formation. Donc c'est sur tous ces éléments-là, finalement, combinés, que je me suis appuyée. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est de dire finalement, oh, ben, depuis les années 80 ou 90, c'est plus utile, hein, on n'a plus besoin, puisqu'il y a eu et des ministères des droits des femmes, il y a eu des lois, c'est vrai, hein, et des lois fondamentales qui sont passées. Il y a normalement égalité de salaire entre les droits des femmes et les hommes. Il n'y a plus normalement de plafond de verre. Il n'y a plus d'obstacles. Hein, et donc, c'est pas la peine finalement de se poser la question. Tout est acquis depuis que les mouvements féminins et l'action des femmes, en particulier dans les années 70, hein, pour prendre l'exemple de la France, se sont développés, voire d'autres disant, bon oui, c'est une mode, on s'y remet, hein, bon, voire certains journalistes, bien en cours pourtant dans certains milieux, hein, je pense à Zemmour en particulier, que pour ma part, du côté des femmes, je trouve tout à fait inquiétant quand on lit ces ouvrages par rapport aux droits des femmes. Hein, et donc, c'est souvent, c'est ce qu'il dit au début d'un de ses ouvrages que j'ai quand même lu malgré un peu une certaine répugnance par rapport à ce qu'il dit, parce que c'est un des courants du masculinisme, il faut bien dire. Hein. Et il dit c'est une mode, et puis de toute façon, ses partisans, c'est toujours du féminisme. D'où mon premier titre, pour une histoire, une géographie mixte et équilibrée. Hein, si on parle d'une femme, on parle de l'homme qui était à côté de lui, à côté d'elle, pardon. Hein, et on montre justement, que ce soit en formation ou avec des élèves ou dans les exemples qu'on prend, que souvent, on va prendre un exemple que j'adore, Émilie du Châtelet sans Voltaire ne serait rien. Mais Voltaire sans Émilie du Châtelet n'aurait peut-être pas non plus fait certaines choses. Donc c'est ça, hein, mixte et équilibré. Donc, alors, depuis 1990, 92, fin des années 90, il y a vraiment eu, hein, on pourrait dire, une nouvelle vague, d'autres générations qui ont commencé à comprendre qu'il fallait bouger à nouveau. Et moi-même, j'avais été effrayée quand j'ai rédigé la première partie du petit livre pour Colin, où je n'avais droit, alors il faut préciser, c'est pour ça que c'est très dense, hein, à aucune citation, hein, je n'avais pas droit de plus de 3 lignes, pour que ce soit bien le texte de l'auteur, hein, et où on m'avait demandé qu'il y ait en effet cette exigence citoyenne en début, d'où la première partie qui est très civique et éducation civique. Et quand j'ai mesuré les chiffres de violences faites aux femmes, je me suis dit, oh, c'est pas possible, je me trompe, ce ne sont pas les bons chiffres, enfin. Hein. Quand j'ai mesuré les exemples de violences à l'intérieur des établissements scolaires aussi, je me suis dit, je me trompe aussi, c'est pas vrai. Hein. Et donc, ça m'a encore poussé davantage à agir. Bon. Donc il y a en effet, et c'est une idée importante, une urgence et une légitimité que l'institution reconnaît. Hein, je rappelle le rapport très intéressant d'Anna Dvorka, la marge infime laissée aux femmes dans l'histoire qui est enseignée a constitué et constitue encore un frein dans la marche vers l'égalité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une égalité affichée. Il y a des textes, il y a une égalité affichée, hein, y compris dans les textes, et en réalité, bon, dans l'éducation nationale, y compris, alors dans la société, c'est même encore pire, je pense, hein, que dans l'éducation, hein, mais donc, d'où l'intérêt d'agir et de réfléchir et de se donner des moyens. Cette légitimité à agir sans entrer dans le pathos. Parce que le pathos, évidemment, rend les femmes du côté de la victime, donc c'est peut-être pas bon. Il faut quand même rappeler que peut-être qu'une des urgences, elle est civique, elle est personnelle, elle est physique, et cela dans tous les milieux. Hein. Les chiffres sont redoutables, tout comme sont redoutables les chiffres par rapport à l'éducation des petites filles ou au viol que les petites filles peuvent subir en allant sur le chemin de l'école dans les pays du Sud, par exemple. Là, l'UNESCO vient de faire quelque chose de remarquable, ça s'appelle « Le chemin de l'école ». Hein, il y aura une publication d'ailleurs qui montre à travers différents portraits le parcours de petites filles et de petits garçons, alors dans les pays du Sud, hein, avec toutes les violences, les handicaps, les obstacles que peuvent subir ou vivre les deux à la fois, les enfants et en particulier les petites filles. même si ça s'améliore dans certains pays, hein, avec parfois même les deux facettes. Je pense à l'Inde, où à l'Inde, il y a des petites filles qui vont à l'école, et en même temps, les petites filles sont sujettes à des violences et à des problèmes multiples. Et en même temps, quand on regarde les chiffres bruts, elles vont à l'école. Donc, c'est tout en contraste, l'Inde. Hein. Donc, des carences multiples. Les violences, c'est un exemple. Le deuxième exemple, dans le livre qui sortira là chez l'Harmattan à la rentrée, j'ai fait un tableau beaucoup plus complet que ce que je vous propose là, mais il y a quand même toujours, les chiffres parlent, hein, un plafond de verre. Alors là, normalement, on va avoir des lois qui vont bouger. Et ces choses-là, ça peut être intégré de manière, je dirais, presque pratique pour faire constater. Hein, c'est pas polémique, c'est un constat. Donc les chiffres donnent la proportion de femmes par rapport à ces fonctions importantes, hein, par exemple les recteurs. Alors on a quand même bien progressé pour les recteurs d'académie, parce que pendant longtemps c'était quand même zéro, hein. Alors donc c'est vrai que, hein, vous voyez là les étudiantes, le 40% actuellement, hein, c'est 40% d'étudiantes à l'ENA pour 21,7% en 1996. Donc, évidemment, donc ça a progressé. Hein. Même chose pour les ambassadeurs, j'ai laissé au masculin, hein, ou ambassadrice, c'est un petit peu plus important. Et le ministre des Affaires étrangères, là, actuel, Laurent Fabius, vient précisément dans les dernières nominations de nommer que des femmes. Alors, après, on tombe, vous voyez, c'est ça, mixte et équilibré. Il ne faudrait pas qu'on ne nomme que des femmes, il faut nommer des hommes et des femmes. Parce que sinon, on va nous dire, évidemment, vous... Hein, bon.
Mais c'est un rattrapage.
C'est un rattrapage, oui, je suis d'accord. Non, mais j'en rajoute un peu. Hein. Alors, en février 2012, bien, précisément, ça commence à bouger avec l'idée, hein, vous le savez, donc j'ai voulu rappeler que ce plafond de verre, ce n'est pas une illusion, c'est quelque chose qui existe encore et qui justifie évidemment qu'on agisse. Donc, exigence citoyenne, constat alarmant, légitimité à agir au sein de l'école pour faire bouger finalement la société. C'est pour ça, moi, que finalement, je me mobilise. Avec de puissantes résistantes, des puissantes résistances qui sont autant, moi je dirais, interne qu'externe au sein de l'école. Je vous rappelais des remarques de jeunes collègues ou de collègues plus en formation, en particulier me disant, mais on peut pas faire ça parce que on va nous accuser d'être dans la classe, de faire trop, hein, ou on va nous accuser d'être militants. Et c'était souvent la remarque, hein. Et il y a des réticences internes à l'école, hein. Il y a des réticences qui sont psychologiques, qui sont aussi parfois des réticences intellectuelles. L'autre type d'argument étant, ben, de toute façon, on n'a pas les outils. On n'a pas les éléments, on n'a pas les exemples, on n'a pas les outils théoriques ou les outils pratiques. Alors maintenant, ça commence à se développer. L'association Mnemosyne a fait un ouvrage avec plus de moyens que mes petits moyens, hein, donc, et avec des illustrations qui est très bien et qui permettent de donner désormais des outils et des exemples. Pour ma part, j'ai essayé de faire des grilles d'analyse et des grilles de lecture pour montrer que les femmes sont agissantes dans l'histoire et qu'elles ne sont pas les potiches ou comment dire, les martyrs ou les contre-héroïnes du genre Marie-Antoinette ou Charlotte Corday, qui dans les manuels des années 50 étaient déjà présentes, hein, et qui étaient généralement, à côté des reines accompagnant les grands princes, les seuls personnages féminins des manuels d'histoire. Donc il y a quand même, il faut en être conscient, des résistances, hein, hein, qui ne sont pas à gommer. Il y a aussi des résistances dans la société, hein, dans des classes, dans la société aussi, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis, donc interne et externe au système éducatif. Et je crois qu'il faut pas, hein, gommer cet obstacle là, hein, ça me paraît, hein, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut y aller en douceur, en donnant des outils et en montrant que on n'oubliera pas les hommes, hein, que les enfants, hein, qu'il s'agit bien de montrer des femmes de tout statut, hein, et pas de refaire un nouveau panthéon féminin, parce que ça c'est très important aussi. hein, des femmes de tout statut et des femmes de tous les âges, pour reprendre le petit débat qu'on a eu tout à l'heure, hein, parce que c'est ça aussi. Sinon, dans les manuels scolaires, on présente, quand on présente des femmes jeunes de préférence, hein, la femme à nouveau idéalisée, hein, ou sur une couverture d'un manuel qui existe actuellement c'est François Giroux. Alors bon, François Giroux en couverture de manuel scolaire, d'accord, hein, mais c'est quand même une femme particulière, hein, avec une personnalité qui mérite une couverture manuel, plus que ça, bien sûr, hein, mais on voit bien qui on choisit. Et les éditeurs, les éditrices, c'est pire que les éditeurs, je peux vous dire. Hein. Je peux raconter une petite anecdote. J'avais été sollicitée pour faire un chapitre sur la 4e République chez Bordas. Les responsables des éditions à ce moment-là n'étaient que des femmes. Je fais mon pré-planning, s'il y a des collègues qui ont fait des manuels, ils savent, et je propose 2 pages sur Simone Veil. Hein? Et j'ai 2 pages sur Simone Veil, c'est beaucoup trop pour un manuel scolaire. Alors, j'ai ramassé mes affaires et j'ai dit, bon, ben, vous passerez de moi, je ne ferai pas. Hein, parce que c'est pareil, il y a, en particulier chez les éditrices, plus que chez les responsables éditoriaux de manuels scolaires hommes, des réticences à mettre en valeur les femmes.
On hein. observe aussi dans les entreprises.
Alors peut-être que, parce qu'on ne veut pas, hein, oui. par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, cette dimension dans l'enseignement, elle a longtemps été occultée, sauf exception. Un exemple très symbolique, un manuel par une collection chez Colin aussi, dirigé par Antoine Pro, où Antoine Pro, c'est quand on le regarde ligne à ligne, page à page, dossier par dossier, hein, on voit qu'il avait déjà fait faire un dossier sur Flora Tristan, par exemple. C'était le seul à l'époque, en 83, à proposer des dossiers dans des manuels de lycée sur Flora Tristan. Hein, mais sinon, en parallèle, évidemment, à l'université, il y a des gens qui, dans les années 70, et en relation avec les mouvements des femmes, se sont bougés. Je pense en particulier à Georges Duby, Michel Perrault et Florence Thébault, hein, qu'on peut rappeler ici, on peut citer ici. Ils ont eu un rôle fondamental. C'est fondamental. Le rôle de Michel Perrault et de Georges Duby. Un homme, une femme. Hein, et un homme qui avait une approche pluridisciplinaire par rapport à l'histoire. C'est ça qui est intéressant, justement. Peut-être qu'il était plus sensible que d'autres à cet aspect-là. Puis le Moyen-Âge porte sans doute à s'intéresser aux femmes, tant le rôle des femmes au Moyen-Âge était important. Alors, j'ai rappelé que, à partir de 80, venant des États-Unis, venant des pays anglo-saxons, venant de la recherche française en sociologie, en anthropologie, etc., apparaît l'histoire du genre qui n'est pas à mettre en opposition avec l'histoire des femmes. Au contraire, hein, ça s'inscrit dans une relecture, comme l'a dit tout de suite très bien, de justement sexuée et effectivement une lecture sociale aussi de l'histoire. Bien. Alors, moi, ce que je propose, c'est quelque chose, un cadre, ce que j'appelle un cadre ouvert. Hein, donc, on va effectivement donner des éléments un peu de méthode, un cadre général, avec l'idée que, finalement, travailler sur les hommes et les femmes dans toutes les disciplines, c'est travailler sur les droits humains. Hein, moi, je me bats pour qu'on emploie le terme « droit humain ». Hein, et non plus droit de l'homme. L'année dernière à Nantes, il y a eu une magnifique exposition. J'étais invitée au débat avec des femmes qui représentaient des entreprises. Alors quelqu'un disait les droits de l'homme. Oh, alors, tout de suite la collègue représentant cette entreprise dit non. Moi maintenant, j'éduque mes enfants et je leur dis droits humains. D'ailleurs, je rappelle que dans les textes de l'ONU, c'est maintenant le terme droit humain, ce qui englobe les hommes, les femmes et les enfants. Et c'est donc un travail sur les droits humains. Deuxième postulat, on ne peut pas travailler dans l'histoire des sociétés, dans l'histoire culturelle, voire dans l'histoire politique, à mon avis, et dans l'histoire culturelle du politique, sans parler des femmes. Hein, parce que sinon, ben justement, on occulte hein, on occulte tout un pan finalement de l'histoire, hein, ce qu'on a fait pendant longtemps, parce que pendant longtemps l'histoire était écrite par des hommes et qu'on analysait, comme le dit très bien Michel Perrault, hein, l'histoire des grèves, en oubliant que les femmes dans les grèves et dans les mouvements sociaux ont eu un rôle fondamental. C'est pas l'exemple des Bretonnes, hein, et les Bretonnes là-dessus ont souvent été les plus agitées, je dirais, hein, troisième postulat, plaidoyer, hein, pour une présence des femmes aux côtés des hommes, c'est-à-dire montrer, hein, dans des sortes de parcours à proposer aux élèves suivant les thèmes, et c'est pareil en géographie, faire une géographie de la ville, on peut très bien, hein, travailler sur, justement, en se servant du travail des géographes femmes aussi, parce que c'est quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure, hein, on oublie qu'il y a des historiens et il y a des géographes dans les manuels scolaires. Alors après, ben, il faut trouver des outils, hein, et évidemment moderniser. Donc voilà les postulats que je propose au départ, hein. Ensuite, enseigner une histoire, et j'ai ajouté la géographie, vraiment mixte avec le potentiel que propose l'histoire des arts, le potentiel que propose l'éducation civique et le CJR, le potentiel que proposent les langues et les lettres, et en langue et en lettres. Alors, le rapport de la HALE de 2008 et le nouveau rapport sur l'égalité là, de 2011 montrent qu'en lettres et en langues, ils sont encore plus en retard que nous, en histoire ou en géographie. Petit l'a dit, évidemment, les manuels scolaires, c'est assez dramatique. Et c'est dramatique, c'est plus dramatique qu'il y a 10 ans, hein, en termes de présence des femmes. Hein, alors là, j'avais pris en 2010 les derniers parus, hein, parce que ça s'y prêtait, donc j'ai laissé ça. Mais depuis, j'ai regardé les manuels de terminale, c'est pas tellement mieux. Alors pourquoi je dis qu'il y a quand même un réel problème, là encore, hein? À cause des auteurs, qui sont majoritairement encore des hommes. Je viens de vous dire ce que j'avais constaté par rapport aux éditrices pour en avoir rencontré deux. Les contenus, c'est toujours le petit dossier sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale ou sur les femmes et l'émancipation des femmes, parce que comme c'est au programme noir sur blanc, on a forcément ce dossier-là dans les manuels. Hein? Alors, les biographies, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, les biographies, vraiment. Les images, c'est souvent l'image d'une femme jeune ou de femme exceptionnelle, donc si on ne fait que ça, si on ne montre pas qu'il y a eu des femmes anonymes, des femmes ouvrières, des paysannes, hein, si on ne montre pas qu'il y a eu d'autres types de femmes que des femmes exceptionnelles, eh bien, on aura à nouveau une sorte de panthéon féminin. Hein, et donc, ça, c'est le risque. Hein. Alors, le pire, ce sont les textes qu'on donne à travailler dans les manuels, qui sont, pour la plupart d'entre eux, signés d'historiens, comme s'il n'y avait pas d'historiennes. Ou de géographes. Alors, les géographes femmes, si, il y en a. Il y a entre autres Sylvie Brunel. Hein? Mais, bon, ou Yvette Verret. C'est généralement les deux noms qui sont utilisés par les collègues auteurs. Hein? Mais sinon, il n'y en a pas d'autres. Or, il y en a quand même beaucoup d'autres. Hein? Je parle des femmes, hein? On entend bien. Alors, le thème de la Révolution de 89, dans les années 80, les femmes étaient beaucoup plus présentes. Ça a régressé. Hein? Et la guerre de 14, alors ça a toujours été, comme si d'ailleurs, à partir de la guerre de 14, les femmes travaillaient et apparaissaient dans l'histoire. C'est assez étonnant, hein? Bon. Quand on donne des évaluations dans les manuels, ben, il n'y a jamais de sujet portant sur la dimension féminine. Et alors, quant au concours, alors il y avait eu des efforts, parce que je pense au concours PLP, où il y a eu une année un sujet justement sur les femmes. La formation, elle va sans doute se reconstituer, espérons-le. Donc, je crois qu'il y aura des modules, croisons les doigts. Donc, il y aura, j'espère, des modules qui permettront de sensibiliser. Mais vous voyez, il y a des décalages. Alors, je vais vous montrer trois exemples. Hein, voilà, Magnard, Hachette, Belin. Autrement dit, trois exemples très, très répandus. C'est simple. Il y a donc quatre petites biographies sur des femmes dans le Magnard. Sur 20 auteurs, il y a 3 femmes, c'est un coordonnateur qui coordonne, il y a 2 dossiers et il y a J'ai bien reconnu mon texte, d'ailleurs, j'étais contente. Hildegard de Bingen, il avait lu mon ouvrage, c'est bien. Hein, mais enfin, il me semble citer. Hein, Émilie du Châtelet, ça j'ai moins aimé quand même. Hein. Bon, oui, je suis un peu, ben, je me suis reconnue quand même. Hein. Bon, mais c'est bien, parce que Hildegard de Bingen, elle est très intéressante. Hein. Peu d'images, vous voyez, j'ai compté 5% d'images où il y a des femmes, sur quand même des ouvrages qui font des centaines de pages. Et aucune évaluation. Là, aucune évaluation. Aucune petite biographie dans le Hachette sur 48 biographies proposées quand même. Hein. 5 auteurs, une femme. Vous voyez, je peux multiplier les exemples, on est toujours dans les mêmes problématiques. 2 textes sur tous les textes proposés dans le manuel, Dieu sait que c'est les manuels scolaires, proposent des documents textes aux élèves. Hein. Vous en avez 2, un de Madame de Staël, un de Georges Sand. Bon, c'est bien, hein, 2. Mais bon, vous voyez combien de textes, j'ai pas noté le nombre, mais là j'avais mis, vous voyez, 5 textes sur 163. Ça donne la mesure. Là, 4 textes dans tout le volume. Donc on est toujours dans les mêmes problématiques. Et là, c'est les auteurs ou les coordonnateurs qui sont responsables, hein, parce qu'ils pourraient pousser en disant non, tu prends un autre texte quand même. Donc je crois qu'il y a vraiment à sensibiliser. Alors, je vais vous montrer l'exemple du chapitre Belin mais Moyen Âge. Alors là, ça m'avait frappé, je crois que je l'avais montré à Paris. Ah, parce que ça m'avait vraiment j'avais vraiment été effrayée. Tout le monde quand même quand on est historien, géographe, voire cultivé, on sait qu'au Moyen Âge les femmes ont eu un rôle majeur, hein, majeur. Hein, y compris dans l'Église. Et là, vous voyez, j'ai mis en rose. C'est le résumé que les élèves retenir l'essentiel. Hein. Retenir l'essentiel par les hommes d'Église. Il suffisait de mettre un mot les abbesses. Ça prenait pas beaucoup de place. Les moines, il n'y a pas de femmes. Hein. Tout est mis au masculin. Quand on lit vraiment, l'homme du Moyen Âge, ben oui, l'homme du Moyen Âge. Donc l'être humain où les hommes et les femmes du Moyen Âge vivent dans un environnement christianisé. Vous voyez, il suffit de regarder un peu finement et on voit. Alors sur ce manuel, 46 pages, aucun texte, une image, pas une référence féminine pour parler du Moyen Âge. Quand même, hein. Donc on a un problème par rapport au manuel, on a un problème par rapport aux outils, bien que les programmes aient bougé. Hein, on a donc des traces, mais souvent les femmes apparaissent comme des exceptions, elles apparaissent singulières. Je vous prenais l'exemple hautement à valoriser qui est celui de Françoise Giroux, hein, parce que justement dans le livre qui va paraître, on a écrit sur Françoise Giroux et elle le mérite bien. Hein, on a surtout une absence des femmes profonde dans le récit, hein, dans le texte auteur par exemple, ou dans le récit que les élèves proposent au fil des classes sur un sujet. Hein, j'avais pris par exemple une observation de plan de cours sur la Révolution. On voit bien que dans la séquence proposée, ben, le professeur, il l'insère pas de manière continue et régulière. Donc quand on en parle de manière exceptionnelle, ben, ça apparaît comme quelque chose, effectivement, qui va qui agit au contraire de ce que l'on veut faire. Hein. Il faut l'insérer dans la chronologie. Les images qu'on a sont souvent, effectivement, des déesses, des allégories, des muses, des femmes des compagnes. Et on est encore souvent dans des images convenus, hein, de personnages qui sont des personnages soit qui accompagnent, soit des personnages exceptionnels, ou alors ce que j'appelle justement des contre-héroïnes ou des femmes qu'on a passé des générations à dénigrer. Je pense aux tricoteuses, hein, que les hommes du 19e siècle ne se sont pas gênés. Il y a des exceptions et c'est intéressant de prendre les exceptions, d'ailleurs, de montrer qu'il y a des hommes au 19e siècle qui, au contraire, ont défendu les droits des femmes, bon, Hugo et d'autres, hein, mais il n'y a pas qu'Hugo. Hein. Il y a des femmes, mais comme je le mets, il y en a, mais c'est des fissures qui lézardent une domination masculine bien installée, comme dit Roger Chartier, il a raison. Donc je pense qu'il y a à agir. Alors, vous voyez que les textes, et c'est surtout depuis 2005, mais ça s'est accentué avec le pôle des compétences, et en particulier la compétence 6, qui dit qu'il faut qu'il y ait au sein de l'école respect des deux sexes. Hein. Les programmes de 2008 ont bougé un peu, c'est vrai, ont bougé un peu, entre autres en histoire. Et ce qu'il faut, pour être très honnête, il faut dire que les programmes d'éducation civique avaient bougé un petit peu avant ceux d'histoire ou de géographie. Hein. Alors, il y a des conventions hein, qui sont très claires, donc normalement, on a les textes. On a de quoi, si on fait des choses avec des élèves, dire oui, j'ai les référents juridiques, j'ai le cadre, je peux faire et je ne fais pas du militantisme. Il s'agit bien de promouvoir l'égalité entre les sexes. Alors, quelle problématique ? Ben, à mon avis, on ne peut pas renouveler les savoirs si on est dans une nation qui n'est pas mixte et dans une nation qui n'est pas métissée. Parce que ça, c'est un autre élément intéressant, c'est-à-dire de prendre... C'est pour ça que Françoise Giroud, par exemple, ça peut être un personnage intéressant, elle est quand même d'origine turque, hein, c'est une migrante, c'est le parcours, par exemple, de cette femme-là peut être un parcours tout à fait symbolique pour montrer comment hein, on cache ses origines, comment on s'intègre involontairement, comment on cache jusqu'à sa mort et au-delà de sa mort qu'on est de confession juive. Hein, y a des choses, mais France mixte, mais France métissée aussi, ça peut être intéressant. Hein, choisir des personnages, des situations qui permettent de se trouver en convergence ou en écho avec ce que vivent des élèves de certains milieux sociaux, à mon avis. Hein. Et parce que sinon, on est aussi dans quelque chose qui est distancié, décalé par rapport aux élèves, entre autres, de certains collèges, je pense. Hein. Donc, quelle histoire on veut faire apprendre, finalement, et comment, vous voyez que j'insiste, des pratiques équilibrées, c'est vraiment mon idée. Alors, je pense qu'on peut le faire en travaillant sur les images, en travaillant sur, justement, les stéréotypes, les représentations. Là, je vous ai mis deux images des almanachs de ce sur quoi je travaille actuellement pour faire un autre livre sur ce morceau de patrimoine qui est le petit écho de la mode. Alors, c'est tout à fait passionnant. Je vous rappelle, le petit écho de la mode, c'est un journal qui a tiré à des millions d'exemplaires de 1880, qui a vécu de 1880 à 1983, et qui était une presse féminine, généraliste, conservatrice, alors qui se disait pas catholique, mais en fait, quand on fouille et qu'on gratte, on voit le catholicisme partout, et qui vantait, évidemment, l'image de la bonne mère, de la bonne épouse, qui fait tout, qui concilie son travail à la maison avec sa vie de mère et d'épouse, et qui s'occupe de deux ou trois enfants, comme le montrent ces images. Et il y aurait tout un panel dans ce... Mais normalement, l'année prochaine, ou dans un an et demi, parce qu'il y a les droits des photos, je suis en train... Le manuscrit, il est rédigé, donc après, c'est les problèmes des droits, parce qu'il y a des héritiers. Et la famille, qui est une famille bretonne... est très vigilante, donc il va falloir que je négocie sur les droits des photos. Hein. Mais les images, c'est intéressant, hein, montrer comment la presse féminine, comment les médias féminins peuvent donner des images qui sont encore stéréotypées. Et puis, les jouets. Hein. Alors, j'aurais pu mettre l'équivalent musulman, parce que je vous rappelle qu'il y a une petite Barbie musulmane qui existe, qui circule, dont j'ai oublié le nom. Alors, voilà ce que je propose, c'est-à-dire de combiner quelque chose de rationnel et de sensible, d'inscrire ça dans la durée, hein, c'est-à-dire se dire sur une année, par exemple, comme on peut le faire sur l'esclavage, par exemple, hein, d'inscrire un travail sur une année. Hein, là, il y a un jeune collègue dans un des lycées de Rennes, et je suis intervenue 3-4 fois auprès des élèves, dans la durée, avec un lycée en partenariat aux États-Unis, parce que c'est un lycée qui est un peu favorisé, il faut bien dire, hein, mais les élèves ont découvert des choses. Ils disent « Ah ben non, il n'y a pas de violence en France. Ah ben non, il n'y a pas de femme qui meurt sous les coups. » Hein, et puis, bon, ils se sont rendus compte que, ah oui, ben, c'était important. Mais on a travaillé sur la durée avec le professeur, hein, et en présentant à l'Institut franco-américain après, dans la cité, le travail fait par les élèves. Hein, donc, j'ai pu mesurer d'ailleurs qu'ils avaient bien entendu mon message. Hein. Donc, les images mentales, le sexisme, hein, qui existe bien sûr. Hein, donc, voilà. travailler les stéréotypes. Hein, j'ai répondu un peu, proposer des éléments de méthodologie. J'ai mis quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher, hein, c'est un texte équilibré, beaucoup de femmes au départ, peu à l'arrivée. évidemment, toutes les périodes historiques. Et je dirais peut-être des thèmes de géographie, des collègues géographes, c'est super. Je pense que en histoire, en tout cas, toutes les périodes historiques, pas seulement l'histoire contemporaine. Sinon, les élèves ont l'impression, ou les étudiants, que elles arrivent comme ça, alors que on sait bien, elles ont toujours travaillé, comme dit Sylvie Schweitzer, et elles sont pas comme ça arrivées au XXe siècle. Et j'ai mis en rose parce que ça me paraît très important. J'ai pas voulu le mettre en rouge, mais des femmes en action. C'est pour ça que dans les deux volumes, j'ai prévu des sortes de petites grilles avec des types de personnages et les types d'actions qu'elles peuvent avoir. Agir dans la cité, agir dans l'ombre, agir dans la ville, etc., etc. Et montrer des hommes et des femmes dans la complémentarité ou dans l'opposition. Ça, c'est intéressant aussi pour introduire l'idée de point de vue et montrer que sur un même thème, non, on n'est pas forcément d'accord, mais on peut défendre son point de vue et que c'est ça qui donne une richesse. Donc, vous voyez, donc j'ai un peu centré sur les axes et des propositions, sachant que derrière, il y a évidemment des arrière-plans théoriques. J'ai mis là aussi en rouge ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment réfléchir, mais ça dépend des éditeurs, mais je pense du ministère aussi, et des autorités, de tous les hommes et les femmes qui peuvent agir, c'est-à-dire souligner qu'on a très peu de documents signés par des femmes. Quand on a des textes sur la résistance, il y a quand même des grandes historiennes et des historiens, autant des historiennes que des historiens qui ont écrit sur la résistance. Or, on a toujours les mêmes textes. Alors, une des raisons, ce sont les raisons financières. Parce qu'un éditeur, quand il a un texte et qu'il a les droits, s'il réutilise le texte, il ne remet pas les droits. Donc, il y a des textes qui sont libres de droits. Il y a toujours derrière les problèmes de droits, les problèmes de droits aux images, les problèmes de droits aux textes. Et donc, si on introduit des nouveaux textes, quand on est auteur de manuels, je l'ai été, je sais, si je mets une photo qui est personnelle, on me paie des droits. Donc c'est aussi sans doute une des raisons. Je pense que c'est une des raisons, qui est une raison financière. Alors, c'est un peu écrit petit, mais vous voyez, j'ai mis aussi les convergences et les points d'ancrage avec, y compris par exemple avec l'éducation physique. Il y a toutes les disciplines. Pas l'éducation civique. Et évidemment, l'ouverture sur d'autres espaces culturels. On ne peut plus se contenter dans quelque chose qui est un récit national, mais montrer que actuellement dans les pays du Sud, que ce soit l'Amérique latine ou les pays d'Asie, il y a des femmes qui ont des rôles au pouvoir. Il y a Indira Gandhi, mais il y en a eu d'autres qu'on peut très bien valoriser autant qu'Indira Gandhi pour montrer que, et des citoyennes qui défendent le droit à l'eau, par exemple, ou qui défendent le droit à être, comme, je pense à une en particulier. Donc, on a vraiment des outils, et des pistes possibles. Je pense qu'il y a aussi des écueils, c'est-à-dire de reproduire ce qui existe, déjà. Reproduire une histoire nationale, reproduire en posant des héroïnes, reproduire en partant de l'existé en se disant oui, c'est quand même important, les femmes en 14, oui, quand même, je continue. Oui, bien sûr, les femmes en 14, c'est important. Mais pas seulement, les femmes dans la Deuxième Guerre mondiale, voir les femmes qui ont au contraire, ou dans la Commune, malheureusement pour la Commune. Oui, c'est vrai, bien sûr. Femmes pétroleuses qui ont été pour la plupart d'ailleurs accusées justement parce qu'elles étaient, comme l'a bien dit Edith Thomas dans sa thèse, précisément des femmes. se méfier d'un système qui serait un système reproduisant l'existant. Hein. Deuxième écueil, à mon avis, c'est la schématisation abusive aussi. Alors, je sais bien, parce que là, on est... sans être dans le pratique du réel, il y a les programmes à faire, il y a la lourdeur du travail et la lourdeur des charges, qu'on soit en formation, qu'on soit quand on est dans le quotidien. Mais quand même, la schématisation abusive, ça a un effet, j'allais dire, inverse de l'effet attendu. Hein. Autre élément, la simple illustration. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on peut partir d'une étude de cas approfondie sur un thème précis, et à ce moment-là, ce sera plus intéressant pour les élèves, ou faire un petit dossier d'un homme et d'une femme, par exemple. Alors, le saupoudrage, c'est un peu la même chose. L'instrumentalisation, c'est un autre risque aussi. Et alors, évidemment, l'absence totale, c'est aussi un écueil à éviter que j'ai mis à la fin, parce que on peut montrer des femmes en action, dans leur diversité, anonyme ou connue, anonyme ou connue, les femmes de Concarneau ou d'ailleurs qui font des grèves dans les entreprises de conserve de sardines, elles sont, et là, cet exemple, alors je l'ai pris dans mon livre pour combiner avec l'histoire des arts, en montrant qu'on a un tableau, on a le tableau qui montre les sardinières en lutte, et on a des textes, et on a des témoignages, on a tout ce qu'il faut pour faire une étude de cas sur un mouvement de grève, où là, ce sont des femmes qui agissent et qui, aux côtés d'hommes qui n'ont pas le droit de vote, mais il y a même un maire d'une commune, il dit, mais on pourrait les inviter au conseil municipal, et bon, voilà. Donc, surtout... ne pas les présenter passives, mais les présenter en action. Et ne pas les présenter seulement comme la vilaine Marie-Antoinette, ou l'horrible reine. Parce que ça a longtemps été quand même, alors de manière caricaturale dans les manuels scolaires du début du siècle, je veux dire du 20e, mais il reste de longues traces qui sont difficiles à atténuer. C'est pour ça que j'ai mis justement Marie-Antoinette et ces fameuses femmes. C'est la couverture d'un livre Bordas de 71, par Denis François et Josette François, les enfants de Louis-François, et ils étaient parmi les rares à mettre des femmes et à parler de femmes dans les manuels scolaires des années 70-71. C'est un manuel de 3e, Bordas. Alors j'ai fait exprès de montrer Marie-Antoinette, parce que c'est le cas extrême, l'horrible Marie-Antoinette. Là, je vous ai mis un autre exemple volontaire, c'est parce qu'en regardant des manuels d'espagnol sur la guerre d'Espagne, je pense que vous le reconnaissez, c'est Capa et Gerda Taro. Mais curieusement, dans les manuels d'espagnol, on voit Capa. Dans les manuels d'histoire, on voit des photos de Capa, mais on ne voit jamais Gerda Taro. Or, qui a fait la plupart des photos ? Précisément, c'est elle. Et elle mériterait tout autant que lui, étant donné en plus son destin, d'avoir sa petite place aux côtés de Capa. Or, on connaît tous Capa, on connaît moins Gerda Taro, même s'il y a eu une biographie récente sur elle. Donc, les images ne sont pas innocentes, comme vous le voyez. Alors, et vous voyez qu'on trouve très vite, on trouve très très vite, des exemples de modèles dans tous les champs qui permettent, suivant ses goûts, suivant ce sur quoi on veut mettre l'accent, de montrer qu'elles ne sont ni passives, ni absentes, mais qu'elles sont bien là, et qu'on peut finalement, alors vous voyez, ça va des déesses, prêtresses, religieuses, moniales, abbesses, reines, le plus bel exemple c'est Aliénor, bien entendu, mais il y en a d'autres quand même, Aliénor qui va à la croisade, Aliénor qui divorce, Aliénor qui prend des amants, bon, faut voir la vie de cette femme hors du commun, et qui, évidemment, peut être un exemple. Donc, voilà. Donc, des formes d'action. On peut aussi agir à toutes sortes d'échelles, montrer que certaines femmes, elles s'inscrivent dans le tissu national, mais dans le tissu international, qu'elles peuvent agir à différents niveaux, donc, avec le rappel de l'approche interdisciplinaire. On peut évidemment travailler sur les images aussi, sur toutes sortes d'images, Ah, j'aime beaucoup les dessins et les dessins de tresse. Et donc travailler sur les rapports entre les femmes et la politique. Les programmes s'y prêtent, à tout niveau. Alors, on peut le faire en adaptant sans doute à l'âge des élèves ou à l'âge des étudiants, si on le fait. On a des témoignages de femmes politiques comme Edith Cresson, qui, quand elle a écrit quelques éléments de ses mémoires, et moi je me souviens l'avoir entendue à Blois au rendez-vous de l'histoire quand ça avait été le thème les femmes, elle a souffert. Et ce ne sont pas les moindres de ses camarades qui l'ont fait souffrir. Elle a raconté les souffrances, le harcèlement, les humiliations. Et alors, cette table ronde, d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours, il y avait Roselyne Bachelot, il y avait une sénatrice d'origine algérienne, et il y avait Edith Cresson, et il y avait une autre, je ne me souviens plus le nom de la quatrième, dans tout l'échiquier politique. Et elle tenait quand même à peu près le même discours. Alors la plus, évidemment, la plus haute en couleur, si je puis dire, a été Roselyne Bachelot, de dire, quand je suis arrivée à la Chambre des députés, j'avais mis un petit tailleur rose, et les députés ont dit, oh, ben c'est bien, ça va faire du rose qui va arriver à la Chambre des députés. Alors finalement, elle a réagi tout de suite, mais... Le rapport politique et société, femmes et politique, là, il y a plein, à tout niveau, dans toute structure, où on peut montrer que, évidemment, j'ai mis 81 parce que ça a été une étape, mais il y a eu des régressions après. Travail sur les médias. Travail sur les médias. J'ai fait sur François Giroud... deux conférences à Ouest-France, grand public, et donc j'avais demandé à Ouest-France de me sortir dans leur documentation pour voir les pages où il était question des femmes et des médias. C'est la seule page qu'ils m'ont trouvée à l'époque, vous voyez, on était, c'est 2008, donc c'était la seule, la documentaliste. Non, j'en ai pas beaucoup d'articles où on parle vraiment des femmes et des médias et des femmes dans les journaux télévisés. Elle a trouvé à ce moment-là cette page. Depuis, je regarde régulièrement et je m'aperçois que quand même, d'abord il y a des signatures de pigistes à Ouest-France, plus nombreuses femmes, et il y a des journalistes femmes un peu plus nombreuses. Alors, pas dans la rédaction, pas dans le conseil de rédaction, disons, mais dans les journalistes, il y a plus de femmes. Mais ça, c'est aussi un sujet, je vous assure, vraiment fondamental. C'est un vrai sujet quand on creuse. On s'aperçoit qu'il y a eu, évidemment, il y a eu quelques femmes, dont Michel Cotta, par exemple, qui ont eu des rôles importants au sein des médias, Christine Ockrent, par exemple, mais elles sont quand même, et elles restent, parce qu'elles sont souvent cantonnées, genre Alexandra Sublet, quoi. L'animatrice, non, mais et ça revient, l'animatrice, nana, et puis je fais exprès d'être un peu follette, pour parler familièrement. Mais je donne quand même mon avis sur la politique, mine de rien. Moi, je regarde de temps en temps pour voir quand il y a des... il y a vraiment, vous voyez, 20% des personnes citées dans les médias sont des femmes. Et on mesure. Oui. Et on mesure. C'est vraiment un terrain qui est très, très important. Alors, un autre, parce que j'y ai travaillé là pour un cahier pédagogique, elle m'avait demandé de travailler sur femmes et esclavage. Il y a beaucoup à dire aussi sur femmes et esclavage, femmes et société, femmes et religion. Vous voyez, on a plein de champs. Femmes et migration, on a plein de champs. 50% des femmes qui migrent actuellement dans le monde, des êtres humains, pardon, sont des femmes. Elles vivent des situations épouvantables, certaines. Pas toutes, on est d'accord. Travaillent dans la création aussi. Bon, vous voyez, au fond, ça résumerait un tissage. J'appelle ça un tissage. Travailler comme un tissage, dans la durée. Terme féminin, peut-être quand même, mais inscrire tout ce que je vous propose là comme un tissage, c'est-à-dire régulièrement, de manière diffuse, de manière continue, pour que on évolue et que effectivement on puisse avoir quelque chose qui réponde aux exigences de la société. Donc pour conclure, vous voyez, je pense que la recherche nous donne des outils. Il y a maintenant d'ailleurs des publications et des outils. Il y a derrière un engagement citoyen aux côtés des hommes, hein, c'est quand même pas mettre les hommes de côté, c'est au contraire une exigence partagée. Et derrière, comme je l'avais dit à Bordeaux, vous voyez, où j'avais été invitée, parce qu'il y a eu à Bordeaux en 2010 un colloque, il y a derrière des valeurs, hein, qui sont d'autant plus importantes que la société, ben oui, elle est en crise et que justement, je pense que ça fera peut-être la liaison, il faut qu'on en parle. Bravo.